Chapitre 5. Catherine de Tarente, emportant le trésor qu'elle avait si loyalement gagné, arriva à la cour de Naples, fière de son triomphe et méditant de vastes projets. Mais de nouveaux malheurs étaient arrivés pendant son absence. Charles de Duras, après avoir sommé la reine une dernière fois de lui accorder le duché de Calabre, titre qui avait toujours appartenu à l'héritier présomptif de la couronne, outré de son refus, avait écrit des lettres à Louis de Hongrie pour l'inviter à prendre possession du royaume, s'engageant de l'aider dans l'entreprise de toutes ses forces et de lui livrer les principaux auteurs de la mort de son frère qui avait échappé jusqu'ici aux investigations de la justice. Le roi de Hongrie accepta ses offres avec empressement et prépara une armée pour venger la mort d'André et marcher à la conquête de Naples. Les larmes de sa mère Élisabeth et les conseils de frère Robert, l'ancien ministre qui s'était réfugié à Bude, le confirmèrent dans ses projets de vengeance. Il s'était déjà plaint amèrement à la cour d'Avignon qu'après avoir puni des assassins subalternes, on laissait une impunité révoltante à la principale coupable qui, encore souillée du sang de son mari, continuait sa vie de débauche et d'adultère. À quoi le pape répondait avec douceur, autant que cela dépendrait de lui, il ne manquerait pas de donner satisfaction à des plaintes légitimes, mais que l'accusation devait être nettement formulée et appuyée par des preuves, que certainement la conduite de Jeanne pendant et après la mort de son mari était blâmable. Cependant, Sa Majesté devait considérer que l'Église de Rome, qui cherche avant tout la vérité et la justice, procédait toujours avec la plus grande circonspection et que, surtout, dans une affaire aussi grave, elle ne pouvait pas juger d'après les apparences. De son côté, Jeanne, effrayée de ses préparatifs de guerre, avait envoyé des ambassadeurs à la République de Florence pour se justifier du crime qui lui était imputé par l'opinion publique. Elle n'avait point hésité d'adresser des excuses même à la cour de Hongrie. Mais le frère d'André avait répondu par une lettre d'un laconisme foudroyant. « Ta vie précédente si désordonnée, le pouvoir exclusif que tu t'es arrogé dans le royaume, la vengeance des meurtriers de ton mari négligée par toi, l'autre mari que tu as épousé, et ton excuse même sont des preuves suffisantes que tu as été complice de la mort de ton mari. » Catherine II ne se laissa pas décourager par les menaces de Louis de Hongrie, et envisageant la position de son fils et de la reine, avec ce coup d'œil froid et clair qui ne la trompait jamais, elle comprit qu'il n'y avait point d'autre moyen de salut que de se réconcilier avec Charles, leur mortel ennemi, en lui accordant tout ce qu'il demandait. Alors de deux choses l'une, ou il les aiderait à repousser le roi de Hongrie, et plus tard, quand le danger plus pressant serait passé, on réglerait les comptes, ou il succomberait, et au moins, ils auraient la satisfaction en tombant, de l'entraîner avec eux dans leur chute. L'accord fut conclu dans les jardins du château neuf, où Charles se rendit sur l'invitation de la reine et de sa tante. Jeanne accorda son cousin de Duras le titre tant désiré de duc de Calabre, et Charles, se voyant déclaré par ce fait l'héritier du royaume, marcha sans délai sur Aquila, qui avait déjà levé le drapeau de Hongrie. Le malheureux ne prévit pas qu'il courait droit à sa perte. Quand l'impératrice de Constantinople vit cet homme qu'elle haïssait plus que tous les autres s'éloigner joyeusement, elle le contempla d'un air sombre, devinant par un instinct de femme qu'il lui arriverait malheur. Puis, comme elle n'avait plus de trahison et de vengeance à consommer sur la terre, frappée d'un mal inconnu, elle s'éteignit subitement, sans pousser une plainte et sans exciter un regret. Cependant, le roi de Hongrie, ayant traversé l'Italie avec une armée redoutable, entra dans le royaume du côté de la Pouille. Il avait parfaitement reçu sur son passage des marques d'intérêt et de sympathie, et Alberto e Martino della Scala, seigneur de Vérone, pour prouver qu'ils s'associaient de tous leurs vœux à son entreprise, lui avait donné 300 cavaliers. La nouvelle de l'arrivée des Hongrois jeta la cour napolitaine dans une alarme impossible à décrire. On avait espéré que le roi serait arrêté dans sa marche par le légat du pape, qui était venu à Foligno lui défendre au nom du Saint-Père, et, sous peine d'excommunication, de passer outre dans le consentement du Saint-Siège. Mais Louis de Hongrie avait répondu au légat de Clément qu'une fois maître de Naples, il se regarderait toujours comme feudataire de l'Église, mais que, jusque-là, il ne devait rendre compte qu'à Dieu et à sa conscience. Aussi, l'armée vengeresse était-elle tombée comme la foudre au cœur du royaume, avant qu'on eût songé à prendre des mesures sérieuses pour la repousser. Il n'y avait qu'un parti à prendre. La reine, après avoir rassemblé les barons qui lui étaient les plus attachés, leur fit jurer fidélité et hommage à Louis de Tarente, qu'elle leur présenta comme son mari. Et après s'être séparée en pleurant de ses plus fidèles sujets, s'embarqua secrètement au milieu de la nuit sur une galère provençale et partit pour Marseille. Louis de Tarente, suivant les inspirations de son caractère aventureux et chevaleresque, sortit de Naples à la tête de 3000 cavaliers et d'un nombre considérable de fantassins et alla se camper sur les bords du Vulturne pour en contester le passage à l'armée ennemie. Mais le roi de Hongrie avait prévu ce plan stratégique. Et tandis que son adversaire l'attendait à Capoue, il arriva à Bénévent par les montagnes d'Alif et de Morcone et reçut le jour même les envoyés napolitains qui, après l'avoir félicité sur son entrée par un magnifique morceau d'éloquence, lui offrirent les clés de la ville et lui jurèrent obéissance comme au successeur légitime de Charles d'Anjou. La nouvelle de la reddition de Naples se répandit bientôt dans le camp de la Brenne et tous les princes du sang et les chefs de l'armée, abandonnant Louis de Tarente, se réfugièrent dans la capitale. La résistance devenait impossible. Louis, accompagné de son conseiller intime, Nicola Acciaiuoli, se rendit à Naples le soir même où ses parents l'avaient quitté pour se soustraire à l'ennemi. Tout espoir de salut s'évanouissait d'heure en heure. Ses frères, ses cousins le suppliaient de s'éloigner rapidement pour ne pas attirer sur la ville entière la vengeance du roi. Malheureusement, il n'y avait dans le port aucun navire en état de faire voile. L'effroi des princes était à son comble, mais Louis, se confiant à son étoile, se jeta avec le brave Acciaiuoli dans un bateau à demi brisé et ordonnant à 4 matelots de ramer de toute leur force, disparut au bout de quelques minutes, laissant sa famille dans la consternation jusqu'au moment où l'on apprit qu'il avait gagné Pise, d'où il était parti pour rejoindre la reine en Provence. Charles de Duras et Robert de Tarente, qui étaient les aînés des deux branches royales, après s'être consultés à la hâte, décidèrent d'adoucir le courroux du monarque hongrois par la soumission la plus complète. Et laissant à Naples leur jeune frère, se dirigèrent promptement sur Aversa, où le roi s'était établi. Louis les reçut avec tous les signes d'une vive amitié et leur demanda avec intérêt pourquoi leurs frères n'étaient pas avec eux. À quoi les princes répondirent que leurs jeunes frères étaient restés à Naples pour préparer au roi une réception digne de sa majesté. Louis les remercia de ses intentions bienveillantes, mais il les pria en même temps d'inviter les jeunes princes à venir auprès de lui, ajoutant qu'il lui serait infiniment plus agréable d'entrer à Naples au milieu de toute sa famille et qu'il lui tardait beaucoup d'embrasser ses jeunes cousins. Charles et Robert, se conformant aux volontés du roi, envoyèrent aussitôt leurs écuyers pour engager leurs frères à se rendre à Aversa. Mais Louis de Duras, le plus âgé des enfants, prit les autres avec beaucoup de larmes de ne pas obéir à cet ordre et répondit au messager qu'un violent mal de tête l'empêchait de quitter Naples. Une excuse aussi puérile ne pouvait manquer d'irriter Charles, et le même jour, un ordre précis et formel, qui n'admettait aucun retard, obligea les malheureux enfants de se présenter au monarque. Louis de Hongrie les embrassa cordialement les uns après les autres, leur fit plusieurs questions d'un air affectueux, les retint à souper et ne les congédia que fort tard dans la nuit. Au moment où le duc de Duras se retirait dans son appartement, Lelio de l'Aquila et le comte de Lodi se glissèrent mystérieusement près de son lit et s'étant assurés que personne ne pouvait les entendre, l'avertirent que le roi avait décidé, dans un conseil tenu le matin, de lui donner la mort et d'ôter en même temps la liberté aux autres princes. Charles les écouta jusqu'au bout d'un air incrédule et, soupçonnant une trahison, leur répondit sèchement qu'il avait trop de confiance dans la loyauté de son cousin pour ajouter foi à une si noire calomnie. Lelio insista, le suppliant au nom des personnes qui lui étaient les plus chères d'écouter leur avis. Mais le duc, impatienté, lui ordonna sévèrement de sortir. Le lendemain, même accueil de la part du roi, même caresse aux enfants, même invitation à souper. Le festin était magnifique. Des flots de lumière inondaient la salle et jetaient des reflets éblouissants. Des vases d'or étaient étalés sur les tables. Les fleurs répandaient leurs parfums enivrants. Les vins fumaient dans les coupes où ruisselaient des amphores comme des jets de rubis. Des discours bruyants, interrompus, inachevés, se croisaient en tous sens et la joie empourprait tous les visages. Charles de Duras soupait en face du roi, une table séparée au milieu de ses frères. Peu à peu, son regard était devenu fixe et son front rêveur. Il songeait que dans cette salle même avait dû souper André la veille de sa fin tragique et que de tous ceux qui avaient contribué à sa mort, les uns avaient expiré dans les tourments, les autres languissaient en prison. La reine exilée, fugitive, implorait la pitié des étrangers. Lui seul était libre. Cette pensée le fit tressaillir. Il s'applaudissait en lui-même de la profonde habileté avec laquelle il avait mené sa trame infernale, et secouant son air de tristesse, Il souriait avec une expression d'orgueil indéfinissable. L'insensé se moquait dans ce moment de la justice de Dieu. Mais l'ello de l'Aquila, qui servait à table, se penchant à son oreille, lui répéta d'une voix sombre « Malheureux duc, mais pourquoi avez-vous refusé de me croire? Fuyez, il en est encore !» Charles, fâché de l'obstination de cet homme, le menaça s'il avait le malheur d'ajouter un seul mot, de répéter tout haut ses paroles. « Mais j'ai fait mon devoir, » murmura l'ello en inclinant la tête. « Maintenant, qu'il advienne de vous ce que Dieu aura disposé. » Comme il achevait de parler, le roi se leva, et au moment où le duc s'approchait de lui pour prendre congé, changeant tout à coup de visage, il s'écria d'une voix terrible. « Traître, tu es enfin dans mes mains. Tu mourras comme tu l'as mérité. Mais avant d'être livré au bourreau, avoue de ta propre bouche les trahisons dont tu t'es rendu coupable envers notre royale majesté, afin qu'il n'y ait pas besoin d'autre témoignage pour te condamner à une peine proportionnée à tes crimes. Va nous deux maintenant, duc de Duras. Dis-moi d'abord pourquoi, par tes infâmes manœuvres, aidant ton oncle le cardinal de Périgord, as-tu empêché le couronnement de mon frère, ce qui, l'ayant privé de toute autorité royale, l'a conduit à une fin si malheureuse? Oh, n'essaye pas de nier. Voilà la lettre scellée de ton sceau. Tu l'as écrite en secret. Elle t'accuse en public. Pourquoi, après nous avoir attirés ici pour venger la mort de notre frère, mort que tu as sans doute procurée, tournant subitement au parti de la reine, as-tu marché contre notre ville de l'Aquila, osant lever une armée contre nos fidèles sujets? Oh, tu espérais, traître, te servir de nous comme d'un marchepied pour monter au trône, à peut-être débarrasser de tous les autres concurrents. Tu aurais ensuite attendu notre départ pour tuer celui que nous aurions laissé à notre place et t'emparer ainsi du royaume. Mais cette fois, ta prévoyance a été en défaut. Et il y a enfin un autre crime qui surpasse tous les autres, crime de haute trahison et que je punirai sans pitié. Tu as enlevé la femme que Robert, notre aïeul, nous avait destinée par le testament dont tu avais connaissance. Réponds, misérable, comment t'excuseras-tu d'avoir volé la princesse Marie? La colère avait tellement altéré la voix de Louis que le son de ses dernières paroles ressembla à un rugissement de bête fauve. Ses yeux brillaient d'un éclat fiévreux, ses lèvres étaient pâles et tremblantes. Charles et ses frères tombèrent à genoux, glacés d'une terreur mortelle, et le malheureux duc essaya deux fois de parler, mais ses dents claquaient avec une telle force qu'il ne put articuler un seul mot. Enfin, jetant les yeux autour de lui, et voyant ses pauvres frères innocents qu'il venait de perdre par sa faute, il reprit un peu de courage et, s'adressant au roi, « Monseigneur, lui dit-il, je vois que vous me regardez d'un visage terrible, ce qui me fait trembler et frémir. Mais je vous en supplie à genoux. Si j'ai manqué, ayez pitié de moi, car Dieu m'est témoin que je ne vous ai pas appelé dans le royaume dans une intention coupable, mais j'ai toujours désiré et je désire votre domination dans toute la sincérité de mon âme. Et maintenant, j'en suis sûr, les conseillers perfides m'ont attiré votre haine. Oh, s'il est vrai que je me suis rendu armé près de l'Aquila, ainsi que vous venez de le dire, Je n'ai pu faire autrement, forcé que j'étais par la reine Jeanne. Mais aussitôt que j'ai appris votre arrivée à Ferbeno, j'ai fait retirer mes troupes. J'espère donc, en Jésus-Christ, obtenir de vous grâce et merci au nom de mes anciens services et de ma fidélité à toute épreuve. Cependant, comme je vous vois irrité contre moi, je me tais et j'attends que votre fureur soit passée. Encore une fois, mon Seigneur, ayez compassion de nous, puisque nous sommes dans les mains de votre majesté. » Le roi, détournant la tête, s'éloigna lentement et confia les prisonniers à Étienne Voïvoda et au comte de Zomi, qui les firent garder pendant la nuit dans une pièce attenante aux appartements du roi. Le jour suivant, Louis, ayant entendu de nouveau son conseil, ordonna que Charles de Duras fut égorgé au même endroit où on avait étranglé le pauvre André, et envoya les autres princes du sang chargés de chaînes en Hongrie où ils furent longtemps détenus prisonniers. Charles, frappé de vertige par un malheur si inattendu, écrasé par le souvenir de ses crimes, tremblant lâchement en face de la mort, était resté comme anéanti. Accroupi sur ses genoux, le visage caché dans ses mains, laissant échapper de temps à autre des sanglots convulsifs, il cherchait à fixer les pensées qui tourbillonnaient dans sa tête comme un rêve monstrueux. Il faisait nuit dans son âme, mais à chaque instant, ses ténèbres intérieures étaient déchirées par des éclairs, et sur le fond sombre de son désespoir passaient les figures dorées qui s'envolaient en lui jetant un sourire railleur. Puis des voix de l'autre monde bourdonnaient à ses oreilles. Il voyait défiler devant lui une longue procession de fantômes, comme le jour où maître Nicolas de Melazzo lui avait montré les conjurés disparaissant par un souterrain du château neuf. Seulement les spectres tenaient cette fois leurs têtes à la main et le secouant par les cheveux faisaient jaillir sur lui des gouttes de sang. D'autres agitaient des fléaux ou brandissaient des rasoirs. Chacun menaçait de le frapper de l'instrument de son supplice. Poursuivi par ce sabbat infernal, le malheureux ouvrait la bouche pour un cri suprême, mais le souffle manquait à sa poitrine et la voix expirait sur ses lèvres. Alors il voyait sa mère lui tendant les bras de loin et lui paraissait dans son trouble qu'il avait pu parvenir jusqu'à elle et qu'il était sauvé, mais à chaque pas, les deux bords du chemin se serraient de plus en plus. Il laissait des lambeaux de chair accrochés aux murailles, et lorsque, haletant, nu, ensanglanté, il touchait au but de sa course, sa mère s'éloignait encore et tout était à recommencer. Les fantômes couraient toujours après lui en ricanant et hurlaient à son oreille « Maudit soit l'infâme qui a tué sa mère !» Charles fut arraché à cette horrible crise dans les pleurs de ses frères, qui venaient l'embrasser pour la dernière fois avant de monter sur la galère qui devait les emporter à leur destination. Le duc leur demanda pardon d'une voix sourde et retomba dans son désespoir. Les enfants se traînaient par terre, demandaient à grands cris de partager le sort de leurs frères et imploraient la mort comme un adoucissement à leur peine. On parvint enfin à les séparer, mais le bruit de leurs plaintes retentit encore longtemps dans le cœur du condamné. Après quelques instants de silence, deux soldats et deux écuyers hongrois entrèrent dans la chambre pour annoncer au duc de Duras que son heure était arrivée. Charles les suivit, sans faire aucune résistance, jusqu'au fatal balcon où André avait été étranglé. Arrivé là, on lui demanda s'il voulait se confesser. Et sur sa réponse affirmative, on fit venir un moine du même couvent où la terrible scène allait se passer, qui écouta la confession de tous ses péchés et lui donna l'absolution. Le duc se leva ensuite et marcha jusqu'à la place où on l'avait terrassé. André. Non, 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 non! Le duc se leva ensuite. Le duc se leva ensuite et marcha jusqu'à la place où l'on avait terrassé André pour lui passer au cou le cordon. Et là, s'agenouillant de nouveau, il demanda aux exécuteurs : Mes amis, dites-moi de grâce s'il y a encore quelque espoir pour ma vie. Et comme ils répondirent que non, Charles s'écria : Faites donc ce qui vous a été commandé. À ces mots, un des écuyers plongea l'épée dans sa poitrine, l'autre lui trancha la tête avec un couteau, et son cadavre fut jeté par-dessus le balcon, dans le jardin où le corps d'André était demeuré 3 jours, sans sépulture. Alors le roi de Hongrie, précédé toujours de son drapeau mortuaire, se mit en marche pour Naples, refusant tous les hommes qu'on voulait lui rendre, renvoyant le dais sous lequel il aurait dû entrer, sans s'arrêter pour donner audience aux élus de la cité, sans répondre aux acclamations de la foule. Armé de toutes pièces, il alla droit au château neuf, laissant derrière lui la désolation et la peur. Le premier acte par lequel il inaugura son entrée dans la capitale fut l'ordre de brûler sur le champ Dona Gancia, dont le supplice, ainsi que nous l'avons dit, avait été retardé à cause de sa grossesse. Elle fut, comme les autres, traînée sur une charrette jusqu'à la place de Sant'Eligio et jetée sur le bûcher. La jeune camérière, dont les souffrances n'avaient pu flétrir la beauté, s'était parée comme pour un jour de fête, et folle et rieuse jusqu'au dernier moment, elle ne cessa de railler ses bourreaux et d'envoyer des baisers à la foule. Peu de jours après, le roi fit arrêter Godefroy de Marsan, comte de Squillas, grand amiral du royaume, et lui promit la vie sauve à condition qu'il ferait tomber dans ses mains Conrad de Cantazaro, un de ses parents, accusé d'avoir aussi conspiré contre André. Et le grand amiral, achetant sa grâce au prix d'une trahison infâme, n'eut pas horreur d'envoyer son propre fils pour engager Conrad à rentrer dans la ville. Le malheureux fut livré au roi, qui le fit rouer vif sur une roue garni de rasoir. Mais le spectacle de ces cruautés, au lieu de calmer la colère du roi, paraissait l'envenimer davantage. Tous les jours, de nouvelles dénonciations amenaient de nouveaux supplices. Les prisons regorgeaient d'accusés, et Louis sévissait avec une ardeur renaissante. On en vint bientôt à craindre qui ne traita la ville et tout le royaume comme si la nation entière avait contribué à la mort d'André. Des murmures s'élevèrent alors contre cette domination barbare, et tous les vœux se tournèrent vers la reine fugitive. Les barons napolitains avaient prêté à contre-cœur leur serment de fidélité, et lorsque le tour des comtes de San Severino arriva, craignant quelques pièges, ils refusèrent de paraître tous à la fois en présence du Hongrois, et, se fortifiant dans la ville de Salerne, ils envoyèrent d'abord l'archevêque Roger, leur frère, pour s'assurer des intentions du roi à leur égard. Mais Louis le reçut magnifiquement, et le nomma son conseiller privé et grand protonotaire du royaume. Alors seulement, Robert de Sanseverino et Roger, comte de Clermont, se hasardèrent à venir devant le roi. Et après lui avoir prêté hommage, ils se retirèrent dans leurs terres. Les autres barons avaient imité leur réserve, et cachant leur mécontentement sous une apparence de respect, attendaient le moment favorable pour secouer le joug étranger. Cependant, la reine était arrivée à Nice, après 5 jours de navigation, sans éprouver aucun obstacle dans sa fuite. Son passage à travers la Provence fut une espèce de triomphe. Sa beauté, sa jeunesse, ses malheurs, tout jusqu'au bruit mystérieux qui courait sur son aventure, contribuait à réveiller l'intérêt du peuple provençal. On improvisa des jeux et des fêtes pour adoucir l'amertume de l'exil à la princesse proscrite. Mais au milieu des transports de joie que les bourgs, les châteaux, les villes faisaient éclater de toutes parts, Jeanne, accablée d'une éternelle tristesse, dévorait sa douleur muette et ses brûlants souvenirs. Aux portes d'Aix, elle trouva le clergé, la noblesse et les premiers magistrats qui l'accueillirent respectueusement, mais sans donner aucune marque d'enthousiasme. Et à mesure que la reine avançait, son étonnement redoublait en remarquant la froideur du peuple et l'air sombre et contraint des grands qui l'escortaient. 1000 sujets d'inquiétude se présentaient à son esprit alarmé, et elle alla jusqu'à craindre quelque intrigue du roi de Hongrie. À peine le cortège était-il arrivé au château Arnaud, que les nobles, se partageant en 2 ailes, firent passer la reine, son conseiller Spinelli et 2 femmes, puis, fermant les rangs, séparèrent Jeanne du reste de sa suite. Après quoi, chacun à son tour, ils se mirent à garder les portes de la forteresse. Il n'y avait plus aucun doute, la reine était prisonnière. Mais il lui était impossible de deviner la cause de cette étrange mesure. Elle interrogea les hauts dignitaires qui, tout en protestant de leur dévouement et de leur respect, refusèrent de s'expliquer tant qu'ils n'auraient pas reçu des nouvelles d'Avignon. En attendant, on ne manquait pas de prodiguer à Jeanne tous les honneurs qu'on peut rendre à une reine. Mais elle était gardée à vue et on lui défendait de sortir. Cette nouvelle contrariété augmenta son chagrin. Elle ignorait ce que Louis de Tarente était devenu, et son imagination, toujours prompte à se forger des malheurs, lui répétait sans cesse qu'elle aurait bientôt à en déplorer la perte. Louis de Tarente, accompagné toujours de son fidèle Acciaiuoli, après bien des fatigues, avait été jeté par les flots au port Pisan, et de là avait pris la route de Florence pour demander quelques secours d'hommes et d'argent. Mais les Florentins avaient décidé de garder une neutralité absolue. Par conséquent, ils refusèrent de le recevoir dans leur ville. Le prince, ayant perdu ce dernier espoir, roulait dans son esprit de sombres projets lorsque Nicolas Acciaiuoli lui dit d'un ton résolu: « Monseigneur, il n'est pas donné aux hommes de jouir continuellement d'un sort prospère. Il y a des malheurs en dehors de la prévoyance humaine. Vous étiez riche et puissant, vous voilà maintenant déguisé, fugitif, mendiant les secours des autres. Il faut que vous vous réserviez à des jours meilleurs. Il me reste encore une fortune assez considérable. J'ai des parents et des amis dont les biens sont à ma pleine disposition. Tâchons de parvenir jusqu'à la reine et arrêtons sur le champ ce qu'il nous reste à faire. Quant à moi, je ne manquerai jamais de vous défendre, de vous obéir comme à mon maître et seigneur. Le prince accepta avec la plus vive reconnaissance des offres si généreuses et répondit à son conseiller qu'il remettait dans ses mains sa personne et tout ce qui lui restait d'avenir. Alchialjouali, non content de servir son maître par son dévouement personnel, détermina son frère Angelo, archevêque de Florence, qui jouissait d'une grande faveur à la cour de Clément VI, de se joindre à eux pour intéresser le pape à la cause de Louis de Tarente. Ainsi, sans autre délai, le prince, son conseiller et le bon prélat montaient sur un navire, se redirigèrent vers le port de Marseille. Mais ayant appris que la reine était retenue prisonnière à Aix, ils débarquèrent à Aigues-Mortes et passèrent promptement à Avignon. On vit bientôt les effets de l'affection et de l'estime que le pape avait pour la personne et pour le caractère de l'archevêque de Florence. Car Louis fut reçu à la cour d'Avignon avec une bonté toute paternelle et à laquelle il était loin de s'attendre. Lorsqu'il plia le genou devant le souverain pontife, sa sainteté se pencha vers lui affectueusement et l'aida à se relever, le saluant du titre de roi. 2 jours après, un autre prélat, l'archevêque d'Aix, se présenta à la reine et s'inclina solennellement devant elle. Il lui tint ce discours. Très gracieuse et très aimée souveraine, permettez aux plus humbles et aux plus dévoués de vos serviteurs de vous demander au nom de vos sujets grâce et pardon pour la mesure pénible et nécessaire qu'ils ont cru devoir prendre à l'égard de votre majesté. Au moment de votre arrivée sur nos côtes, le conseil de notre fidèle ville d'Aix avait appris de bonne source que le roi de France avait formé le projet de donner notre pays à un de ses fils, en vous dédommageant de cette perte par la cession d'un autre domaine, et que le duc de Normandie s'était rendu à Avignon pour solliciter personnellement cet échange. Oh, nous étions bien décidés, madame, et Dieu en avait reçu le serment, de succomber tout jusqu'au dernier, plus que de subir l'exécrable tyrannie des Français. Mais avant de répandre le sang, nous avons voulu garder votre auguste personne comme un otage sacré, comme une arche sainte à laquelle personne n'eût osé toucher sans tomber foudroyé et qui devait éloigner de nos murs le fléau de la guerre. Maintenant, nous venons de lire le désistement formel de cette odieuse prétention sur un bref que le souverain pontife nous envoie d'Avignon et dans lequel il se porte caution de votre royale parole. Nous vous rendons votre liberté pleine et entière, et ce ne sera plus que par les vœux et par les prières que nous essaierons encore de vous retenir parmi nous. Partez donc, madame, si tel est votre bon plaisir. Mais avant de quitter ces contrées, que votre départ plongera dans le deuil, laissez-nous l'espoir que vous nous aurez pardonné la violence apparente à laquelle nous nous sommes portés envers vous, dans la crainte de vous perdre. Et souvenez-vous que le jour où vous cesserez d'être notre reine, vous signerez l'arrêt de mort de tous vos sujets. Jeanne rassura l'archevêque et la députation de sa bonne ville d'Aix par un sourire plein de tristesse et leur promit qu'elle emporterait un éternel souvenir de leur amour et de leur attachement. Car cette fois, elle ne pouvait plus se tromper sur les véritables sentiments de la noblesse et du peuple, et à si rare fidélité, qui se révélait par des larmes sincères, la toucha jusqu'au fond de l'âme et la fit revenir amèrement sur son passé. Mais un accueil magnifique et triomphal l'attendait à une lieue d'Avignon. Louis de Tarente et tous les cardinaux présents à la cour étaient sortis à sa rencontre. Des pages habillés d'un costume éblouissant portaient sur la tête de Jeanne un dais de velours écarlate constellé de fleurs de lys d'or et enrichi de plumes. De beaux adolescents et de belles jeunes filles, la tête couronnée de fleurs, la précédaient en chantant ses louanges. Les rues par lesquelles devait passer le cortège étaient bordées d'une double haie vivante. Les maisons étaient pavoisées. Les cloches sonnaient à triple volée, comme dans les grandes fêtes de l'église. Clément VI reçut d'abord la reine au château d'Avignon, avec toute la magnificence dont il savait s'entourer dans les occasions solennelles. Ensuite, elle fut logée dans le palais du cardinal Napoléon des Ursins, qui, à son retour du conclave de Pérouse, avait fait bâtir à Villeneuve cette royale demeure habitée depuis par les papes. Rien ne pourrait donner une idée de l'aspect étrange et tumultueux que présentait à cette époque la ville d'Avignon. Depuis que Clément V avait transporté en Provence le siège pontifical, la rivale de Rome avait vu s'élever dans ses murs des places, des églises, des palais où les cardinaux déployaient un luxe inouï. Toutes les affaires des peuples et des rois se traitaient alors au château d'Avignon. Des ambassadeurs de toutes les cours, des marchands de toutes les nations, des aventuriers de tous les pays, italiens, espagnols, hongrois, arabes, juifs, des soldats, des bohémiens, des bouffons, des poètes, des moines, des courtisanes, fourmillaient, bourdonnaient, s'enchevêtraient dans les rues. C'était une confusion de langues, d'usages, de costumes, un pêle-mêle inextricable de pompe et de haillons, de luxe et de misère, de prostitution et de grandeur. Aussi les poètes austères du Moyen-Âge ont-ils flétri dans leurs chants la ville maudite du nom de Nouvelle Babylone. Il existe un monument curieux du séjour de Jeanne à Avignon et de l'exercice de sa souveraine autorité. Indignée de l'impudence des filles perdues qui côtoyaient effrontément tout ce qu'il y avait de plus respectable dans la ville, la reine de Naples publia une ordonnance célèbre, la première dans ce genre, et qui a servi depuis de modèle en pareille matière, pour obliger ces malheureuses qui trafiquaient de leur honneur à vivre enfermées dans un même asile qui devait être ouvert tous les jours de l'année, excepté les trois derniers jours de la semaine sainte, et dont l'entrée était interdite aux Juifs dans tous les temps. Une abbesse, choisie tous les ans, avait la direction suprême de ce couvent singulier. Des règles furent établies pour le maintien de l'ordre et les peines sévères prononcées contre l'infraction de la discipline. Les juristes consultes de l'époque menèrent grand bruit de cette institution salutaire. Les belles dames avignonnaises prirent tout haut la défense de la reine contre les bruits calomnieux qui s'efforçaient de ternir sa réputation. Il n'y eut qu'une voix pour exalter la sagesse de la veuve d'André. Seulement, ce concert de louanges fut troublé par les murmures des recluses qui, dans leur langage brutal, accusaient Jeanne de Naples d'entraver leur commerce pour s'en réserver le monopole. Sur ces entrefaites, Marie de Duras vint rejoindre sa sœur. Elle avait trouvé moyen, après la mort de son mari, de se réfugier dans le couvent de Sainte-Croix avec ses deux petites filles, et tandis que Louis de Hongrie était occupé à brûler ses victimes, la malheureuse, ayant échangé ses habits de femme contre le froc d'un vieux religieux, s'était échappée comme par miracle et avait réussi à gagner un navire qui faisait voile pour la Provence. Marie raconta à sa sœur les affreux détails et les cruautés de Louis de Hongrie. Bientôt, une nouvelle preuve de cette haine implacable vint confirmer les récits de la princesse désolée. Les ambassadeurs de Louis se présentèrent à la cour d'Avignon pour requérir formellement la condamnation de la reine. Ce fut un grand jour que celui où Jeanne de Naples plaida elle-même sa cause devant le pape, en présence de tous les cardinaux qui se trouvaient à Avignon, de tous les ambassadeurs des puissances étrangères, de tous les personnages éminents accourus de l'extrémité de l'Europe, pour assister à ce débat unique dans les annales de l'histoire. Qu'on se figure une vaste enceinte, au centre de laquelle, sur un trône élevé, siégeait, comme président de l'auguste consistoire, le vicaire de Dieu, juge absolu et suprême, revêtu du pouvoir temporel et spirituel de l'autorité humaine et divine. À droite et à gauche du souverain pontife, les cardinaux, couverts de pourpre, occupaient des fauteuils disposés circulairement, et derrière ces rois du collège sacré, se déroulaient majestueusement jusqu'au fond de la salle leur cours d'évêques, de vicaires, de chanoines, de diacres, d'archidiacres et toute l'immense hiérarchie de l'Église. En face du trône pontifical, on avait placé une estrade réservée à la reine de Naples et à sa suite. Au pied du pape se tenaient debout les ambassadeurs du roi de Hongrie, qui devaient remplir le rôle d'accusateurs résignés et muets. Les circonstances du crime et les preuves de culpabilité ayant été débattues à l'avance par une commission nommée à cet effet. Le reste de la salle était encombré par une foule brillante de hauts dignitaires, d'illustres capitaines, de nobles envoyés, rivalisant de luxe et d'orgueil. Toutes les haleines étaient suspendues, tous les yeux étaient fixés sur l'estrade où Jeanne devait prononcer sa défense. Le mouvement de curiosité inquiète faisait refluer vers le centre cette masse unie et compacte au-dessus de laquelle s'élevaient les cardinaux comme des pavots suspendus à travers une moisson d'or agitée par le vent. La reine parut, donnant la main à son oncle, le vieux cardinal de Périgord, et à sa tante, la comtesse Agnès. Sa démarche était à la fois si modeste et si fière, son front si mélancolique et si pur, son regard si plein d'abandon et de confiance, qu'avant de parler, tous les cœurs étaient pour elle. Jeanne avait alors 20 ans. Elle était dans tout le développement de sa magnifique beauté. Mais une extrême pâleur voilait l'éclat de sa peau satinée et transparente, et ses joues amaigries portaient l'empreinte de l'expiation et de la souffrance. Parmi les spectateurs qui la dévoraient le plus avidement du regard, on remarquait un jeune homme à la chevelure brune, à l'œil ardent, aux traits fortement accusés, que nous rencontrerons plus tard dans notre histoire. Mais, pour ne pas détourner l'attention de nos lecteurs, nous nous contenterons de leur apprendre seulement que ce jeune homme s'appelait Jem d'Aragon, qu'il était infant de Majorque et qu'il aurait donné tout son sang pour arrêter une seule des larmes qui tremblait au bord des cils de la reine. Jeanne parla d'une voix émue et tremblante, s'arrêtant de temps à autre pour essuyer ses yeux humides et brillants ou pour exhaler un de ses soupirs qui vont droit à l'âme. Elle raconta avec une si vive douleur la mort de son mari, peignit avec une si effrayante vérité l'égarement et la terreur dont elle avait été saisie et comme foudroyée par cet affreux événement, porta les mains à son front avec une telle énergie de désespoir qu'on pourrait en arracher un reste de folie, qu'elle fit passer dans l'assemblée un frisson de pitié et d'horreur. Et certes, dans ce moment, si son récit était faux, son angoisse était vraie et terrible. Ange flétri par le crime, elle mentait comme Satan, mais comme Satan, elle était déchirée par les tortures infinies de l'orgueil et du remords. Ainsi, quant à la fin de son discours, fondant en larmes, elle implora aide et protection contre l'usurpateur de son royaume. Un cri d'assentiment général couvrit ses dernières paroles. Plusieurs mains se portèrent sur la garde des épées et les ambassadeurs hongrois sortirent de l'audience, le front couvert de confusion et de honte. Le soir même, à la grande satisfaction du peuple entier, on proclama l'arrêt qui déclarait Jeanne de Naples innocente et étrangère à toute complicité dans l'assassinat de son mari. Seulement, comme on ne pouvait excuser sous aucun prétexte la conduite de la reine après l'événement et son insouciance à poursuivre les auteurs du crime, le pape reconnut qu'il y avait dans cette affaire une preuve de magie évidente et que la faute attribuée à Jeanne était la conséquence nécessaire de quelque sort maléfique jeté sur la pauvre femme et dont il lui avait été impossible de se défendre. Et en même temps, sa sainteté confirma le mariage de la reine avec Louis de Tarente et accorda à ce dernier l'ordre de la Rose d'Or et le titre de roi de Sicile et de Jérusalem. Il est vrai que Jeanne, la veille de l'acquittement, avait vendu au pape la ville d'Avignon pour la somme de 80 000 florins. Pendant que la reine plaidait son procès à la cour de Clément VI, une horrible épidémie, désignée sous le nom de peste noire, la même dont Boccace nous a laissé une si admirable description, ravageait le royaume de Naples et le restant de l'Italie. Suivant les calculs de Matteo Villani, Florence perdit les 3/5 de sa population. Bologne en perdit les 2/3 et presque toute l'Europe fut décimée dans cette effroyable proportion. Les Napolitains étaient déjà fatigués de la barbarie et de la rapacité des Hongrois. Ils n'attendaient qu'une occasion pour se révolter contre l'oppresseur étranger et rappeler leur légitime souveraine que, malgré ses torts, ils n'avaient jamais cessé d'aimer. Telle était sur ce peuple sensuel la force de la beauté et de la jeunesse. À peine la contagion eut-elle jeté le désarroi dans l'armée et le trouble dans la ville, que les imprécations éclatèrent contre le tyran et ses bourreaux. Louis de Hongrie, menacé tout à la fois et de la colère du ciel et de la vengeance du peuple, tremblant de l'épidémie et de l'émeute, disparut tout à coup au milieu de la nuit et laissant le gouvernement de Naples à Corrado Lupo, un de ses capitaines, courut s'embarquer à Barlette et quitta le royaume à son tour, comme il l'avait fait quitter quelques mois auparavant à Louis de Tarente. Ces nouvelles arrivèrent à Avignon au moment où le pape venait de faire expédier à la reine la bulle d'absolution. Il fut décidé sur le champ de reprendre le royaume au vicaire de Louis de Hongrie, Nicolas Acciaiuolo, parti pour Naples, muni de la bulle miraculeuse, qui devait constater, aux yeux de tous, l'innocence de la reine, dissiper les scrupules et réveiller l'enthousiasme. Le conseiller se dirigea d'abord au château de Melcy, commandé par son fils Lorenzo. Oh, c'était la seule forteresse qui avait refusé de se rendre. Le père et l'enfant s'embrassèrent avec ce sentiment de légitime orgueil qu'éprouvent en présence l'un de l'autre deux hommes de la même famille qui viennent d'accomplir héroïquement leur devoir. Le gouverneur de Melcy apprit au conseiller intime de Louis de Tarente que l'arrogance et les vexations des ennemis de la reine avaient fini par lasser tout le monde, qu'une conspiration en faveur de Jeanne et son mari, tramée au sein de l'université de Naples, avait de vastes ramifications dans tout le royaume et que la discorde régnait dans l'armée étrangère. L'infatigable conseiller se rendit de la Pouille à Naples, parcourant villes et campagnes, se multipliant partout, proclamant partout à haute voix l'acquittement de la reine, son mariage avec Louis de Tarente et les indulgences que le pape promettait à tous ceux qui feraient un bon accueil à leur souverain légitime. Puis, quand il vit que le peuple se levait sur son passage pour crier « Vive Jeanne et mort aux Hongrois !», il retourna vers ses maîtres et leur annonça les dispositions dans lesquelles il avait laissé leur sujet. Jeanne emprunta de l'argent de tous les côtés où elle put en avoir, arma des galères et partit de Marseille avec son mari, sa sœur et ses deux fidèles conseillers, Acciaiuoli et Spinelli, le 10 septembre 1348. Le roi et la reine, ne pouvant entrer dans le port qui était au pouvoir de l'ennemi, débarquèrent à Santa Maria de Carvine, près de la rivière de Sabato, aux applaudissements frénétiques d'une immense population et accompagnés par toute la noblesse napolitaine. Ils se dirigèrent vers le palais de Messire Aliutorio, près de Porta Capuana, les Hongrois s'étant fortifiés dans tous les châteaux de la ville. Mais Nicolas Acciaiuoli, à la tête des partisans de la reine, bloqua si bien ses forteresses qu'une moitié des ennemis fut obligée de se rendre et l'autre moitié, prenant la fuite, s'éparpilla dans l'intérieur du royaume. Nous ne suivrons pas Louis de Tarente dans sa pénible entreprise à travers la Pouille, les Calabres et les Abruzzes, où il recouvra une à une les forteresses occupées par les Hongrois. Par des efforts d'une valeur et d'une patience sans exemple, il s'était rendu maître à peu près de toutes les places considérables, lorsque les choses changèrent brusquement de face et la fortune des armes lui tourna le dos une seconde fois. Un capitaine allemand nommé Warner, qui avait déserté l'armée hongroise pour se rendre à la reine, s'étant revendu par une nouvelle trahison, se laissa surprendre à Corneto par le Condrado Lupo, vicaire général du roi de Hongrie, et se réunit ouvertement à lui, entraînant une grande partie des aventuriers qui combattaient sous ses ordres. Cette défection imprévue força Louis de Tarente de rentrer à Naples, et bientôt le roi de Hongrie, averti que ses troupes étaient ralliées autour de son drapeau et qu'elles n'attendaient plus que son retour pour marcher sur la capitale, débarqua avec un grand renfort de cavaliers dans le port de Manfredonia et après s'être emparé de Trani, de Carnosa et de Salerne, vint mettre le siège à Aversa. Ce fut un coup de foudre pour Jeanne et pour son mari. L'armée hongroise se composait de 10 000 cavaliers et au-delà de 7 000 fantassins. Et la place n'était défendue que par 500 soldats, commandés par Giacomo Pignatelli. Malgré cette immense disproportion de nombre, le général Napolitain repoussa vigoureusement l'attaque. Et comme le roi de Hongrie combattait au premier rang, il fut blessé au pied par une flèche. Alors Louis, voyant qu'il lui serait difficile d'emporter la place d'assaut, résolut de la prendre par la fin. Les assiégés firent 3 mois de prodiges de valeur, mais la résistance était impossible, et on s'attendait d'un moment à l'autre à les voir capituler, à moins qu'il ne fût décidé de périr jusqu'au dernier. Renaud des Baux, qui devait arriver de Marseille avec une escadre de 10 galères pour défendre les ports de la capitale et protéger la fuite de la reine, si l'armée hongroise venait à s'emparer de Naples, retardée par les vents contraires, avait dû s'arrêter en chemin. Tout paraissait conspirer en faveur de l'ennemi. Louis de Tarente, dont l'âme généreuse répugnait à verser le sang des braves dans une lutte inégale et désespérée, se dévoua noblement et offrit au roi de Hongrie de vider leur querelle dans un combat singulier. Voici la lettre authentique du mari de Jeanne et la réponse du frère d'André. « Illustre roi de Hongrie qui est venu envahir notre royaume, nous, par la grâce de Dieu, roi de Jérusalem et de Sicile, nous invitons à un combat singulier. Nous savons que vous ne vous inquiétez de la mort de vos soldats de lance ou des autres païens que vous avez entraînés à votre suite, pas plus que s'ils étaient des chiens. Mais nous, qui craignons les malheurs qui pourraient arriver à nos soldats et gendarmes, nous voulons combattre personnellement avec vous pour terminer la présente guerre et ramener la paix dans notre royaume. Celui de nous deux qui survivra à l'autre sera roi. Et pour que le duel se fasse en toute sûreté, nous proposons qu'il ait lieu ou à Paris en présence du roi des Français, ou dans la ville de Pérouse, ou à Avignon, ou à Naples. Choisissez un de ces 4 lieux et répondez-nous. » Le roi de Hongrie, ayant d'abord entendu son conseil, lui répondit ainsi. « Grand roi, nous avons lu et pris connaissance de votre lettre que vous nous avez envoyée par le porteur des présentes, et votre invitation au duel nous a plu souverainement. Mais nous n'approuvons aucun des lieux que vous prescrivez, parce qu'ils nous sont tous suspects pour plusieurs raisons. Le roi de France est votre aïeul maternel, et quoique nous ayons avec lui des liens de sang, il ne nous est pas aussi proche parent. La ville d'Avignon, quoiqu'elle appartienne de nom au souverain pontife, est la capitale de la Provence et a toujours été soumise à votre domination. Nous n'avons pas plus de confiance en la ville de Pérouse, parce que cette ville vous est dévouée. Quant à la ville de Naples, il n'est pas même nécessaire d'écrire que nous la repoussons, puisque vous savez bien qu'elle est en révolte contre nous et que vous y régnez. Mais si vous désirez de vous battre avec nous, ce sera en présence de l'empereur d'Allemagne, qui est le maître suprême, ou du roi d'Angleterre, qui est notre ami commun, ou du patriarche d'Aquilée, qui est notre bon catholique. Mais si vous n'aimez pas les lieux que nous vous proposons à notre tour, pour ôter tous les prétextes et abréger tous les délais, nous serons bien heureux de vous avec notre armée. Non. Reprendre à Metz si vous n'aimez pas les lieux. Mais si vous n'aimez pas les lieux que nous vous proposons à notre tour, pour ôter tous les prétextes et abréger tous les délais, nous serons bientôt près de vous avec notre armée. Alors vous sortirez de votre côté et nous pourrons terminer notre duel en la présence des deux camps. Après l'échange de ces lettres, la provocation de Louis de Tarente n'eut pas de suite. La garnison d'Aversa avait capitulé après une résistance héroïque. Et l'on savait trop bien que si le roi de Hongrie pouvait arriver sous les murs de Naples, il n'aurait pas eu besoin de mettre sa vie en danger pour s'emparer de la ville. Heureusement, les galères provençales étaient enfin dans le port. La reine et son mari eurent à peine le temps de s'embarquer et de se réfugier à Gaète. L'armée hongroise se présenta devant Naples. La ville allait se rendre et avait envoyé des orateurs au roi pour demander humblement la paix. Mais telle fut l'insolence des paroles des Hongrois que le peuple irrité prit les armes et se prépara à défendre ses foyers avec l'acharnement du désespoir. Tandis que les Napolitains tenaient tête à l'ennemi à la Porta Capuana, à l'autre bout de la ville, se passait un étrange épisode dont le récit achèvera de peindre ces temps de violence barbare et de trahison infâme. La veuve de Charles de Duras, enfermée au château de l'œuf, attendait dans une anxiété mortelle la galère sur laquelle elle devait rejoindre la reine. La pauvre princesse Marie, serrant dans ses bras ses petites filles éplorées, pâle, les cheveux épars, les yeux fixes, la bouche contrastée, prêtait l'oreille à chaque bruit, partagé entre la crainte et l'espoir. Tout à coup, des pas retentirent dans le corridor. Une voix amie se fit entendre. Marie tomba à genoux et poussa un cri de joie. C'était son libérateur. Renaud de Beau, amiral de l'escadre provençale, s'avança respectueusement, suivi de son fils aîné Robert et de son chapelain. « Merci, Seigneur !» s'écria Marie en se relevant. « Nous sommes sauvés !»« Un instant, madame, » reprit Renaud en l'arrêtant du geste. « Vous êtes sauvés, mais à une condition. »« À une condition ?» murmura la princesse étonnée. « Écoutez-moi, madame. Le roi de Hongrie, le vengeur des assassins d'André, le meurtrier de votre mari, est aux portes de Naples. Le peuple et les soldats napolitains vont bientôt succomber après un dernier effort de courage. Bientôt le fer et le feu de l'armée victorieuse vont répandre partout la désolation et la mort. Et cette fois, le bourreau hongrois n'épargnera pas ses victimes. Il tuera les mères sous les yeux de leurs enfants, les enfants au bras de leurs mères. Le pont-levis de ce château est levé et nul ne veille à sa garde. Tous les hommes capables de tenir une épée sont à l'autre bout de la ville. Malheur à vous, Marie de Duras, si le roi de Hongrie se souvient que vous lui avez préféré son rival. Mais n'êtes-vous pas là pour me sauver ? S'écria Marie d'une voix pleine d'angoisse. Jeanne, ma sœur, ne vous a-t-elle pas ordonné de me mener près d'elle ? Votre sœur n'est plus dans le cas de donner des ordres, reprit Renaud avec un sourire de mépris. Elle n'avait que des remerciements à m'adresser de lui avoir sauvé la vie, ainsi qu'à son mari, qui prend lâchement la fuite à l'approche de l'homme qu'il avait osé provoquer en duel. Marie regarda fixement l'amiral pour s'assurer que c'était bien lui qui parlait avec tant d'arrogance de ses maîtres, mais effrayée par l'imperturbabilité de son visage, elle continua d'une voix douce. « Puisque c'est à votre seule générosité que je devrai ma vie et celle de mes enfants, je vous en serai mille fois reconnaissante. Mais hâtons-nous, Seigneur Comte, car il me semble à chaque instant entendre le cri de la vengeance. Vous ne voudrez pas me laisser en proie à mon cruel ennemi. » « Mais à Dieu le plaise, madame, je vous sauverai au risque de mes jours, mais je vous ai déjà dit que j'y mettais une condition. Et laquelle? Demanda Marie avec une résignation forcée. Celle que vous épouserez, mon fils, à l'instant même, en la présence de notre révérend chapelain. Téméraire! S'écria Marie en reculant, le visage pourpre d'indignation et de honte. C'est ainsi que tu oses parler à la sœur de ta légitime souveraine. Rends grâce à Dieu que je veux bien pardonner cette insulte, un moment de vertige qui a troublé ta raison, et tâche par ton dévouement de me faire oublier ta conduite. » Le comte, sans répondre un seul mot, fit signe à son fils et au prêtre de le suivre, et se disposa à sortir de la chambre. Au moment de franchir le seuil, Marie s'élança vers lui et, joignant les mains, le supplia au nom de Dieu de ne pas l'abandonner. Renaud s'arrêta. « J'aurais pu me venger, dit-il, de l'affront que vous me faites en refusant mon fils avec tant de hauteur, mais je laisse ce soin à Louis de Hongrie, qui s'en acquittera à merveille. « Grâce pour mes pauvres filles, répétait la princesse, grâce au moins pour mes pauvres enfants, si mes larmes ne peuvent pas vous toucher. « Et si vous aimiez vos enfants, répondit l'amiral en fronçant le sourcil, vous auriez déjà pris votre parti. « Mais je ne l'aime pas, votre fils, s'écria Marie d'une voix fière et tremblante à la fois. « Oh, mon Dieu, mais peut-on violer ainsi les sentiments d'une pauvre femme ?» Mais vous, mon père, vous qui êtes un ministre de la vérité et de la justice, faites donc comprendre à cet homme qu'on ne peut pas appeler Dieu à témoin d'un serment qu'on arrache à la faiblesse, au désespoir. Et s'adressant au fils de l'amiral, elle ajouta en sanglotant : Vous êtes jeune, vous avez aimé peut-être, vous aimerez sans doute un jour. « Oh, j'en appelle à votre loyauté de jeune homme, à votre courtoisie de chevalier, à tous les nobles élans de votre âme. Réunissez-vous à moi pour détourner votre père de son fatal projet. Vous ne m'avez jamais vu. Vous ne savez pas si j'aime un autre homme dans le secret de mon cœur. Votre fierté doit se révolter de voir ainsi maltraiter une pauvre femme qui vient se jeter à vos pieds pour vous demander grâce et protection. Un mot de vous, Robert, et je vous bénirai dans tous les instants de ma vie, et votre souvenir restera gravé dans mon âme comme celui d'un ange tutélaire, et mes enfants apprendront votre nom pour le répéter. Tous les soirs, en priant Dieu de combler vos désirs, oh, dites, voulez-vous me sauver, et qui sait, plus tard, je vous aimerai d'amour.
« Je dois obéir à mon père, répondit Robert, sans lever les yeux sur la belle suppliante. Le prêtre gardait le silence. 2 minutes s'écoulèrent, pendant lesquelles ces 4 personnages, absorbés chacun par ses pensées, restèrent immobiles comme des statues sculptées aux 4 coins d'un tombeau. Dans ce terrible intervalle, Marie fut tentée 3 fois de se jeter à la mer. Mais une rumeur confuse et lointaine vint tout à coup frapper son oreille. Peu à peu, le bruit s'approcha, et les voix devenant plus distinctes, on entendit des femmes dans la rue pousser des cris de détresse.
« Fuyez, 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 Dieu nous abandonne, les Hongrois sont dans la ville !»
Les pleurs des enfants de Marie répondirent à ces cris, et la petite Marguerite, levant ses mains vers sa mère, exprimait sa terreur par des paroles au-dessus de son âge. Renaud, sans jeter un regard sur ce tableau touchant, entraînait son fils vers la porte.
« Arrêtez !» dit la princesse en tendant la main avec un geste solennel. « Puisque Dieu n'envoie pas d'autre secours à mes enfants, sa volonté est que le sacrifice s'accomplisse. »
Et elle tomba à genoux devant le prêtre, courbant la tête comme une victime qui tend le cou à la hache du bourreau. Robert des Baux se plaça à son côté, et le prêtre prononça la formule qui les liait pour toujours, et consacra cet infâme viol par une bénédiction sacrilège. « Tout est fini, » murmura la veuve de Duras, en jetant sur ses deux filles un regard plein de larmes. « Non, tout n'est pas fini encore, » reprit durement l'amiral en la poussant vers une autre chambre. « Avant de partir, il faut que le mariage soit consommé. »« Oh, justice de Dieu !» s'écria la princesse d'une voix déchirante. Et elle tomba évanouie.